Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Nous avons toute l'équipe qui est là en place pour vous tenir compagnie pendant ces 57 minutes interactives dans Parole aux auditeurs qui vous proposent ce nouveau numéro. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, la ministre des Mines s'oppose à la décision du 20 août dernier des autorités du Sud Kivu, région minière de l'Est du pays, relative à la suspension des activités d'entreprises chinoises soupçonnées d'abus manifestes et multiples dans l'exploitation de sites aurifères dans le territoire de Mwenga. Madame Samba Kalambai estime que cette mesure viole la loi sur les pouvoirs des gouverneurs et annonce une imminente révisitation des contrats miniers octroyés depuis plus de 10 ans conformément au nouveau code minier. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant bien entendu les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour vous informer ou pour participer à cet échange citoyen. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats et nous soulignons que vous êtes plus de 4000 à avoir été touchés par ces sujets. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Comme je l'ai dit, Jocelyne Mukendi est à la réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badianyama et ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anchi. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Al Kitenge qui est avec nous. Monsieur Al, bonjour.
Bonjour J.R.
Vous êtes le grand stratège et analyste économique. Comment commentez-vous cette actualité avec cette polémique entre le ministère de Mines et les autorités du Sud Kivu?
Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Il faut simplement remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation calamiteuse et scandaleuse où les responsabilités peuvent être établies de toutes parts. La seule façon de faire les choses, c'est de les faire en toute légalité. Et aujourd'hui, la seule chose que la ministre dit, c'est que le gouverneur a outrepassé ses droits, il ne peut ni autoriser ni interdire. La seule chose aussi que la ministre essaie de dire, c'est que nous sommes dans une situation où il faut tirer les responsabilités au clair. Si on arrête toutes les activités, en ce moment-là, on efface les traces. Laissez les acteurs en présence, les enquêtes sont en cours, les inspecteurs sont en train de faire leur travail, nous aurons tous les éléments et on saura qui a fait quoi. La précipitation n'est pas nécessairement l'efficacité. Aujourd'hui, la seule chose que la ministre est en train d'essayer de dire, c'est que agissons en toute légalité et établissons les responsabilités, celles d'aujourd'hui et celles d'hier, afin de pouvoir projeter un futur clair et transparent pour tout le monde, afin que cela n'arrive plus jamais.
Alors, avant d'entrer vraiment dans les vifs de cette question, est-ce qu'il s'agit là de la question relative à la compétence exclusive?
Il s'agit des compétences réparties selon les textes qui organisent le secteur. Le secteur minier est organisé autour du code minier numéro 2 aujourd'hui qui fait la référence et du règlement minier. Et je pense qu'il faut rester strictement dans le respect des lois. C'est comme ça justement que l'on peut savoir qui est responsable de quoi.
Ben alors, d'aucuns qualifient cette démarche du ministre des Mines de vouloir faire tabula rasa ou encore une chasse aux sorcières parce que la plupart des contrats que détiennent notamment les Chinois qui sont sanctionnés aujourd'hui et ont été signés par les pouvoirs passés, les régimes passés.
C'est le régime passé également qui a mis en place le code minier 1 et 2. Et donc je ne crois pas que vouloir faire respecter le code minier sortirait d'une quelconque stratégie de pouvoir s'attaquer aux personnes. Toute la question dans le secteur minier chez nous, c'est d'établir la réalité en toute transparence de qui fait quoi. Aujourd'hui, on parle des Chinois, on parle des Brésiliens, on parle des Américains, mais on ne dit pas qui est cette personne qui fait ça. Vous savez, la chose la plus gênante dans ça, c'est qu'on est en train de violer de manière délibérée le code minier. Il y a ce qu'on appelle l'exploitation industrielle minière, qui est gérée par des éléments bien déterminés de notre code minier, mais il y a également ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Le drame maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui se cachent derrière les réglementations sur l'exploitation artisanale pour éviter toutes les charges qui sont dues à une exploitation industrielle. En réalité, c'est des industriels qui s'installent dans le dos des exploitants artisanaux. Et si vous remarquez très bien, c'est que la chose la plus dangereuse, c'est que les exploitants artisanaux n'ont pas de charges et des responsabilités sur les questions environnementales en termes de réhabilitation, ce qui est une exigence industrielle, parce que simplement leur impact est assez petit parce qu'ils travaillent avec des petits moyens. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vont laisser des trous, qui polluent les eaux et l'air, et qui ne se chargent d'absolument rien. À côté de ça, c'est toute la question de savoir qui est où. Vous avez, vous tous, vu cette vidéo de Alain Foucault qui démontre de manière assez claire que on a établi un pays dans un autre pays où des gens qui sont des opérateurs économiques refusent de respecter les règles et les textes du pays. Nous commençons à aller dans la cour du roi Péto et ça, c'est totalement inacceptable. Je pense simplement que n'importe quel opérateur économique, quel que soit le secteur dans lequel il agit, doit pouvoir être en mesure de respecter les lois et les règlements du pays.
Alors, vous êtes analyste économique, Al Kitenge. Que rapporte concrètement au trésor public l'exploitation minière entreprise par les Chinois, notamment dans cette partie du pays, le Sud Kivu?
Vous pouvez vous en rendre compte, regardez l'état des lieux autour de ces exploitations, regardez l'habitat qu'il y a là-dedans, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité du travail qui est fait, la quantité d'investissements qui y sont faits. Je crois simplement que l'exploitation clandestine n'est pas acceptable parce qu'elle ne rapporte rien, ni de manière directe, ni de manière indirecte, mais par contre les conséquences peuvent être graves. Je crois simplement que le secteur a été très malheureusement du fait d'un conflit d'intérêts permanent entre les politiques et les opérateurs économiques, céder à un certain degré de désordre. Je crois que il est important que quelqu'un, à un moment donné, tape du poing sur la table et qu'on remette de l'ordre. La première étape, c'est d'identifier qui est qui et qui fait quoi et avec quelles autorisations, est-ce qu'il est en règle ou pas. Et je pense que je devrais être en mesure d'encourager Madame la ministre des Mines en allant droit dans la fourmilière, être en mesure de donner un véritable coup de pied et être en mesure de remettre de l'ordre.
Mais l'esprit et la lettre de la correspondance de Madame la ministre des Mines semblent plutôt encourager la continuation de l'exploitation par les Chinois au lieu de sursoir un moment pour attendre jusqu'à ce que le rapport sera établi après avoir remis en ordre, comme vous l'avez dit là.
Vous vous rendez bien compte que, par exemple, les rares personnes qu'on identifie n'ont même pas un moindre papier d'identité. On ne sait même pas de qui il s'agit. Si vous arrêtez brutalement les activités, ils disparaissent dans la nature et vous n'avez plus personne en face de vous, et donc vous ne savez plus faire une enquête. Aujourd'hui, toute la question est de dire, laissez les gens en place, on étudie exactement qui fait quoi, qui assure quelle responsabilité avec quel papier, et ça permet justement d'établir les responsabilités des uns et des autres sur celles des hommes politiques ou pas.
Alors, que redoute Madame la ministre par cette suspension? Redoute quoi, concrètement?
Ma lecture à moi est de dire, un, il ne faut pas céder à la légalité à cause de la panique. La légalité veut que les responsabilités qui sont celles du ministre ne peuvent pas être assumées par un gouverneur, fût-ce pour faire du bien. Il faut faire les choses dans les règles, dans le respect des textes, dans le respect des prérogatives. Première des choses, il faut donc éviter de créer un précédent. Si vous laissez un gouverneur prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, les autres gouverneurs vont faire la même chose et nous serons dans une cour du roi Péto où les responsabilités seront en l'air et on ne saura pas qui est censé faire quoi. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut éviter d'effacer des traces. Parce qu'il est évident que tout le monde peut être soupçonné dans cette situation. Il est inacceptable de penser que tout ce qui se passait là-bas était à l'insu du gouverneur et des autorités. Sinon, il y aurait une véritable raison de s'inquiéter et de dire qu'il y a une incompétence, une incapacité totale. Et donc, en ce moment-ci, le gouverneur n'est pas nécessairement le mieux placé pour être en mesure d'arrêter ses activités. Il est peut-être parmi les gens qu'il faut être en mesure de questionner.
Alors c'est ici aussi le lieu de se poser la question, qu'en est-il aujourd'hui avec l'exploitation artisanale? Parce qu'à un certain moment, je crois que si nos mémoires sont encore en place, il y a quelques années, si nous faisons même 10 ou 15, voire même 20 ans en arrière, en tout cas l'exploitation artisanale avait vraiment droit au chapitre. Aujourd'hui, est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'on a évolué positivement ou négativement?
J.R., je suis très content que vous ayez fait ce bond en arrière pour être en mesure de faire un jugement de valeur sur l'exploitation artisanale. L'exploitation minière, par définition, ne peut pas être artisanale. La première expérience d'exploitation artisanale que nous avons connue dans ce pays, c'est Mbujimayi et Tshikapa avec l'exploitation minière du diamant. Tout le monde sait très bien que l'impact a été terriblement négatif. Quelques individus ont pu gagner de l'argent, mais on connaît le nombre d'accidents qu'il y a toujours eu là-bas, mais on connaît surtout la régression au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, étant donné que les enfants quittaient rapidement l'école pour aller se mettre dans des trous à rats qui, pensaient-ils, pouvaient leur permettre de gagner de l'argent. Et tout le monde a vu ce recul. Mais nous avons quand même commis l'erreur de vouloir généraliser cela. À l'époque, on disait, avec le CESCAM, que ça devait être des exploitations minières avec assistance technique. Ça n'a jamais fonctionné comme il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence avec le CMAP pour être en mesure d'améliorer la situation. La vérité, c'est que chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent dans des conditions inacceptables. Chaque jour qui passe, des gens vont tomber malades au fur et à mesure à cause de la pénibilité du travail. Mais chaque jour qui passe, on crée des groupes armés. La plupart d'exploitations plutôt minières servent à alimenter des filières de fraude, mais également des filières de dangerosité de la communauté en rapport avec le fait que ces sites artisanaux alimente la plupart des 140 groupes armés dont on a hérité des gens. Ce qu'il est important qu'aujourd'hui, on se pose les bonnes questions. Est-ce que nous voulons faire de l'artisanat minier l'activité par défaut pour que les gens se débrouillent entre-temps, qu'ils gagnent un peu d'argent et que derrière ça, nous ayons un certain apaisement social? Ou alors, nous créons derrière l'artisanat minier toute la fumée nécessaire pour être en mesure de créer une fraude organisée alimenté par nos frères chinois et indiens et autres qui s'installent en toute illégalité. Et si vous imaginez que 40% de la production de cobalt, par exemple, vient du secteur artisanal, vous dites bien que, en fait, il faut être sérieux, il faut réorganiser la question. Et l'État congolais a pris une disposition en créant une société qui s'appelle EGC, pour ce qui concerne le cobalt au Katanga, pour être en mesure de canaliser ces achats de sorte que, un, les gens travaillent dans des conditions moins pénibles. Deux, que les prix d'achat soient rémunérateurs pour que les gens gagnent un peu d'argent. Trois, mais également qu'on évite la fraude, mais également tous les dangers qui viennent avec. Et je crois simplement que les choses qui n'ont pas marché, il faut les remettre en question. Et moi, j'en appelle à un sérieux forum où les états généraux de l'artisanat minier pour qu'on mette les choses sur la table. Un, leur lien avec la fraude et les guerres sociales, et ils s'installent une certaine exploitation, un certain esclavage d'état moderne qu'il faut arrêter. Et trois, voir de quelle manière on pense sortir de l'artisanat minier pour aller vers une exploitation organisée et comment on fait pour être en mesure de transférer toutes ces personnes qui sont là-dedans vers des activités plus humaines et plus rentables.
Voilà, on va revenir à vous. Le temps peut-être d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité, qui ont désiré participer dans cet échange citoyen sur la soi-disant polémique entre le gouverneur et la ministre de Mines. Vous l'avez dit, il n'y a pas de polémique, mais il fallait simplement remettre les choses dans son contexte. Mais la grande question aussi, c'est qu'aujourd'hui, comment faire pour arriver finalement à rentrer dans nos droits, c'est-à-dire que le nouveau code puisse remporter quelque chose dans la caisse de l'État. Et surtout avec plusieurs questions, notamment sur les entreprises, faire une petite évaluation sur le joint venture, les choix que nous avons faits depuis un certain moment pour arriver au résultat. Est-ce que ça a marché au niveau des Gécamines? Est-ce que ça a marché au niveau de notre partie est, du nord-est du pays, où on assiste à un affaiblissement de rendement ou encore des disons quasi inexistantes opérations des activités au niveau de l'Okimon. Voilà, donc toutes ces questions, on va se la poser d'un moment à l'autre. Le temps d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Alidor, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Jure, bonjour Radio Capri, bonjour à l'invité que j'ai toujours apprécié.
Quelle est votre réaction, Ali?
Oui, Monsieur Jure, nous avons tous suivi les débats ou la problématique des conflits de pouvoir entre Madame le ministre national de Mines et Monsieur le gouverneur du Sud Kivu par rapport à la mesure prise par ce dernier suspendant les activités minières dans le territoire de Mwenga. Et Monsieur Jure, mon analyse est celle-ci. En droit, il y a un principe qui dit « celui qui paie et n'empêche, pêche ». Donc le gouverneur, considérant qu'il y avait péril dans la demeure, ne pouvait pas laisser la population périr, il ne pouvait pas laisser les gens qui étaient dans l'illégalité continuer de poser les actes. Ce que le ministre, le gouverneur a eu à prendre, ce n'est qu'une mesure provisoire, une mesure préventive. Et nous rappelons que le gouverneur est aussi un officier de police judiciaire. On a dénoncé non seulement le fait d'exploitation illégale, c'est aussi une infraction, mais on a aussi dénoncé le fait de pollution des eaux dans les territoires de Mwenga. Là, le gouverneur ne pouvait pas laisser sa population mourir pour attendre la décision du ministre ou de madame la ministre de Mines, qui ne pourra pas venir peut-être dans le délai. C'est comme ça que le gouverneur a eu à prendre une mesure préventive de suspension d'activité minière parce qu'il y avait péril à la demeure, il y avait des infractions qui étaient en train de se commettre en attendant que l'instruction soit menée, que les enquêtes soient menées pour établir des responsabilités. Mais curieusement, monsieur Gilles, madame la ministre, qui pouvait entériner cette mesure prise par le gouverneur, va quant à elle solliciter que ce dernier puisse rapporter sa mesure. Mais moi, je me suis posé la question. Madame la ministre, ce n'est pas l'avocate de ces sociétés minières. Même dans sa lettre adressée à son collègue de l'intérieur, il n'évoque pas une quelconque correspondance de ces sociétés minières lui adressée à travers laquelle elle sollicitait la levée ou l'abrogation de la mesure du gouverneur. Mmh. Donc vous sentez que c'est l'action personnelle de madame la ministre. Alors on se demande pourquoi cet acharnement dans les chefs de madame la ministre, qui apparemment ne s'intéresse pas aux intérêts de, à l'intérêt général ou aux intérêts de la population. Elle-même qui a effectué même une mission sur terrain, qui a entendu les uns et les autres, elle pouvait aussi, en attendant que les enquêtes aboutissent, prendre aussi une mesure de suspension de travaux, parce qu'il y avait des faits sanctionnels dénoncés, pollution des eaux, exploitation illicite, pour savoir est-ce que les faits-là qu'on est en train de dénoncer sont-ils des faits vrais ou sont-ils des faits faux. Est-ce que les Chinois qui sont en train d'exploiter, de minérer dans cette partie du pays, sont-ils en droit d'exploiter? Est-ce qu'ils ont des documents? Donc, ils pouvaient prendre ne plus que cette mesure préventive au lieu de dire, à notre niveau, nous ne devons qu'attendre jusqu'à ce que les enquêtes vont aboutir. Mais s'il y a péril dans la demeure, M. Jules, et que les eaux sont en train d'être polluées, la population qui consomme cette eau va mourir et attendre la mesure de Mme la ministre qui arrivera, je ne sais pas, en 2023 ou en quelle année. Donc, M. Jules, allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a pas conflit de pouvoir. Le gouverneur, c'est un officier de police judiciaire dans sa circonscription, dans son ressort. Quand il y a péril dans la demeure, il prend une mesure préventive pour que l'autorité, tout le ministre de l'État, puisse à son niveau maintenant prendre des décisions définitives.
Merci beaucoup, M. Alidor, d'avoir appelé de Kananga. Alors, Deo Gracias, vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour, Deo Gracias.
Bonjour, mais hier, malheureusement, je ne suis pas à Kisangani, je suis à Kananga.
Voilà, vous êtes à Kananga, oui. Alors, vous venez de suivre Alidor qui a évoqué les pouvoirs qu'a les gouverneurs en tant qu'officier de police judiciaire. Pour lui, il estime qu'il n'y a pas un conflit de pouvoir. Il a pris cette décision pour éviter le péril en demeure.
Ok, monsieur Juer, conflit de pouvoir, il n'y en a pas certainement, mais il y a une mauvaise... Il y a juste une incompréhension, peut-être par rapport, n'est-ce pas, aux compétences dévolues à une personne et à l'autre. Monsieur Juer, d'emblée, je soulignerai que les politiques de notre pays cessent à aller d'une manière à être des politiques propagandistes, mais que ce soit, n'est-ce pas, des politiques providentialistes. Nous devons être un État providentiel. Donc, on sait qu'il y a un principe en économie où on dit « donne-moi une bonne politique, je te donnerai, n'est-ce pas, un bon impôt ». C'est ça la manière dont il faut, n'est-ce pas, réfléchir dans cette logique. Nous savons que l'État joue la souveraineté permanente sur les sols et les sous-sols, et sur toutes les rivières et tous les lacs. C'est vrai que tous les matériels qui se retrouvent, n'est-ce pas, au sein de l'État, appartient à l'État. Mais il y a aussi une loi. La loi portant, n'est-ce pas, à principes généraux à l'agriculture, qui reconnaît la population des communautés locales à aussi jouir des terres, des fruits des terres de leurs ancêtres. Alors, les problèmes se posent dans des contrats qu'on signe entre l'État et les entreprises, que ce soit les entreprises étrangères et ou les entreprises, n'est-ce pas, nationales, en matière, n'est-ce pas, de l'exploitation minière, des cahiers de charges. C'est ça la première des questions que soit la madame la ministre ou les gouverneurs de province pouvaient, n'est-ce pas, se poser. Les cahiers de charges qui lient les entreprises à l'État congolais vis-à-vis de l'exploitation. Il y a quel type de cahier de charges? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, des entreprises de poche, les multinationales de poche, qui se disent que non, nous partons exploiter, nous signons des contrats, mais en réalité, il n'y a pas le formalisme qui octroie des bénéfices à des sujets, à la population locale qui est en train de vivre. Pourquoi? Parce que quand il y a un cahier de charges, il fallait qu'en contrepartie, qu'il y ait des contrats 50-50, 50-50. La population, d'une part, pouvait aussi bénéficier soit des écoles, soit des soins infirmiers, ou soit des soins médicaux, ou soit, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, accès à des certaines opportunités, que sais-je encore. Mais aujourd'hui, nous voyons des lieux où, n'est-ce pas, on exploite, les entreprises, entre guillemets, chinoises exploitent, les populations ne bénéficient à rien. Il n'y a pas de contrepartie. La population est habitée à beaucoup de difficultés, de maladies, des épidémies, de toutes maladies, de toutes les sortes, sont à la charge de la merci de la population et on les arrache même les droits qu'ils sont devenus. En termes non, de ressources épanouies, ces contrées restent moins développées, sous-développées, mais les entreprises gagnent beaucoup d'argent et ils s'envolent. Le gouverneur, il est là, n'est-ce pas, comme un officier sur terrain, dans sa circonscription, il est en train de voir. C'est lui qui constate des faits directement vis-à-vis de la population. Il voit que cette entreprise, cette autre-ci, ne respecte pas des conditions, ne respecte pas des clauses. La population ne bénéficie en rien. Il prend des mesures conservatoires. Et le ministre de tutelle dit non, vous ne pouvez pas prendre ces mesures.
Donc vous estimez, si je comprends bien, malgré que notre invité a dit qu'il n'y a pas de polémique, vous estimez que les gouverneurs étaient dans tous ces droits.
Juste, M. Gier, juste un mot, si vous pouvez, permettez-moi.
Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui...
Oui, merci beaucoup. Je sais que dans un état purement régionalisé, il y a le contrôle des tutelles que le ministre
de tutelle exercent, n'est pas
le pouvoir centralisé.
Oui.
Mais cela ne peut pas, n'est-ce pas, porter atteinte à une... ne peut pas, n'est-ce pas, occasionner les crises d'incompréhension et de tension entre les deux. Mais il n'y a pas de crise, mais c'est juste une mauvaise interprétation des textes, ou des compétences, n'est-ce pas, dévolues à une personne et à une autre autorité. Merci.
Voilà, merci beaucoup d'avoir appelé Deo Gracias depuis Kananga. Alors Pierre, vous êtes à Goma. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Comment analysez-vous cette affaire?
Merci beaucoup. Moi, par rapport à cette question, moi je dirais que ni les autorités qui vous tiennent, ni la ministre de Mines, Mme Samba Kalambaye, ont tort dans leur décision. Et cela nous prouve clairement que dans ce pays, chacun veut protéger ses intérêts au lieu de chercher à travailler pour l'intérêt général de la population. Mais aussi la manque de collaboration et communication entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Monsieur Gier, d'abord, admettons que les autorités du Sud-Kivu ont pris cette décision de suspendre les activités des entreprises chinoises.
Oui, bien, en évoquant bien entendu des raisons que venait d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure Alidor et les autres, notamment la pollution et puis l'exploitation illicite.
Oui, d'accord. Après avoir constaté les irrégularités au sein de ces entreprises, ils ont pris cette décision considérée comme une résolution. Mais pourquoi les faire sous la violation de la loi? Mais aussi, madame la ministre de Mines ne pouvait pas directement s'opposer avant de faire une descente sur terrain et demander à ses autorités les vraies raisons qui les ont motivées à faire ce qu'ils ont fait. Puis chercher une vraie solution ensemble. Or, malheureusement, nous assistons à une scène de ce qui suit, chose qui n'est pas bonne. Pourtant, que dans tout ça, la population ne se trouve nulle part. Au contraire, la population qui pouvait être bénéficiaire parmi nous. Certains sont maltraités par ces Chinois qui disent exploiter nos minéraux et dans ce secteur. Et nous pensons que le problème est du gouvernement qui n'arrive pas à bien faire son travail. Au contraire, il veut faire manquer entre eux. C'est ce que nous remarquons comme problème. Et nous avons dit, c'était hier à Nitouri, on a arrêté quelques Chinois et les Ougandais qui exploitaient des minéraux d'une manière illégale. Vous imaginez si une fois on allait aussi suspendre cette activité là-bas, on dirait la ministre est encore, la ministre allait encore se porter à cette décision. Donc on doit revoir toutes ces choses qui ne vont pas au lieu de s'incrémenter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Pierre d'avoir appelé de Goma 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs avec vous, Al Kitenge, le grand stratège et analyste économique. Vous avez suivi les uns et les autres. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il n'y a pas polémique. Mais les auditeurs, parmi eux, il y a ceux qui soutiennent vraiment la position de l'autorité provinciale par rapport à celle prise par disons, la ministre du tutelle. Mais le tout dernier auditeur dit que ben, ce sont des responsabilités partagées. Alors comment réagissez-vous, monsieur Al Kitenge?
Je crois que les gens sous-estiment les pouvoirs du gouverneur. Le gouverneur dans une province, c'est le représentant direct et personnel du chef de l'État. C'est donc l'autorité suprême dans la province. Qu'à cela ne tienne, il doit agir en toute légalité et éviter l'arbitraire. Ça reste obligatoire dans un pays qui se respecte. Et aujourd'hui, les questions d'exploitation minière, qu'elles soient dans l'industrie ou dans l'artisanat, les questions sont traitées par le code minier. Il est donc important de se référer au code minier et pas au sentiment. Je voudrais ici insister sur le fait que tout ça est arrivé à l'issue d'une vidéo qui est devenue virale, celle de Alain Foucault, qui démontre de manière assez claire l'incapacité, y compris du ministre provincial des Mines, de faire exercer le droit de l'État et l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, Alain Foucault vous dit des choses assez gênantes, du genre, les conseillers directs du gouverneur sont conseillers dans l'entreprise dont il est question aujourd'hui. Je parle de la seule entreprise qui a fait scandale. Et quand vous êtes dans cette situation, la seule chose à faire, un, c'est de s'assurer qu'on fait rapport à qui de droit, et à qui de droit, c'est le ministère des Mines nationales. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que tout ça se passe pendant qu'une grande commission d'inspecteurs du ministère des Mines est en train de mener les enquêtes dans la région. Et je crois que, bien sûr, il y a un problème de communication entre les entités. Il va falloir que les gens apprennent à se parler davantage avant d'agir. Et je peux comprendre que, dans la non-connaissance des détails, certaines personnes perçoivent cela comme étant une polémique. Je pense que nous devons accepter que les gens se parlent, qu'ils se parlent peut-être en dehors des papiers. Ça réglerait plus de problèmes. Et aujourd'hui, ce que moi j'aurais bien voulu que l'on fasse, c'est que le gouverneur nous dise on a arrêté des gens et qu'on les a identifiés, on a vérifié leurs papiers, voici la réalité. On doit la vérité aux citoyens, on doit la vérité et la transparence aux citoyens. Et c'est pour ça que M. Deo Gracias, quand il parle, il insiste sur la population et il insiste sur le cahier des charges. Mais non des cahiers des charges que les gens qui sont effectivement autorisés de manière viable. Ces gens qui installent des usines, et il y en a au Katanga aussi, qui installent des usines et qui s'approvisionnent exclusivement derrière les artisanaux, en réalité, ils ne sont pas censés exister. C'est des gens qui sont illégaux, ils ne sont pas censés exister dans l'exploitation minière, que ce soit dans l'or, que ce soit dans le coltan, ou encore moins dans le cuivre et le cobalt. Et ces gens, à un moment donné, il faut juste trouver les mécanismes pour être en mesure de les stopper, pour qu'ils fassent les choses dans les règles. Parce que chaque exploitation a ce qu'on appelle les droits, mais également les devoirs. Lorsqu'on est dans l'artisanat, on n'a pas les devoirs des industriels. On ne peut pas s'installer en industriel avec l'espace des artisanaux. Et je crois que là-dessus, il faut avoir le courage d'aller au-delà des sentiments, d'aller au-delà des présomptions et aller regarder les faits. Et les faits aujourd'hui, c'est de mener une enquête en bonne et due forme, établir en toute transparence la vérité auprès des citoyens pour savoir qui fait quoi. Et aujourd'hui, M. Alidor, il insiste sur les questions politiques et je l'ai dit de manière assez claire. Le problème de notre pays, c'est le comportement des hommes politiques. Ils sont en total conflit d'intérêts permanent sur les questions économiques et sur les questions d'action. Vous allez vous rendre compte qu'on vous dit, et ça c'est le commandant de l'Ituri qui le disait, on rencontre des Ougandais, on rencontre des exploitants artisanaux chinois, mais derrière eux, ils sont protégés par des militaires congolais. Qui a commis ces militaires à la garde de ces inciviques? On se pose une bonne question, il doit y avoir une réponse. Derrière ça, vous trouvez des hommes politiques qui s'impliquent très malheureusement dans de l'exploitation complètement illégale. Mmh. Tout le monde voit les vidéos qui circulent sur la toile. À un moment donné, quand on est un pays sérieux, On doit arrêter toutes ces choses.
Mais Al Kitenge, je ne sais pas, parce que il y a eu cette première alerte, toujours avec Alain Foucault, qui a été reçue par Albert Yuma, qui a fait des révélations, qui ont soulevé d'ailleurs des tollés, et les voix se sont levées pour soit dénoncer Albert Yuma lui-même, et également, mais personne n'a pris en compte les vérités qui ont été annoncées par Albert Yuma. Ça aurait été une piste aussi pour nous éviter. Et c'est comme si Alain Foucault a vu, bon, il y avait silence radio du côté des autorités. Alors il a lancé une deuxième vidéo que vous avez qualifiée d'ailleurs de virale. Bon, finalement, ça fait mouche, ça fait bouger des gens. Alors moi, je me pose la question, quand il y a eu cette polémique avec Glencore, qui ne voulait pas des mesures prises par le gouvernement et tant d'autres investisseurs, pourquoi on n'a pas pu organiser un forum que vous proposez d'ailleurs, pour que finalement, et d'un côté des investisseurs, et de l'autre, ceux qui sont impliqués dans la gestion de la chose publique, qu'ils discutent des vraies questions, qu'ils se posent des vraies questions, et qu'ils cherchent à trouver des bonnes réponses.
JR, nous sommes en plein 21e siècle, la puissance n'est même plus dans le pouvoir public. La puissance est dans l'opinion publique. La puissance est dans les réseaux sociaux et dans les médias. Vous, en tant que journaliste et d'autres experts, qui aujourd'hui comprennent et saisissent la question, nous devrions être en mesure de soulever la plus grande puissance possible pour donner les moyens à ceux qui nous dirigent d'être droits, mais également de faire appliquer le droit. On ne peut pas être un peuple qui est assujetti à des gens qui nous exploitent comme des esclaves pendant si longtemps, c'est inacceptable. Et ça, bien sûr, les politiques ont leur responsabilité, mais s'ils sont, ils faillissent à leur activité, nous avons l'obligation en tant que population de pouvoir surveiller les gouvernants mais également les opérateurs économiques. Regardez ce qui se passe dans le secteur du transport aérien. Le gouvernement a réussi à faire plier les opérateurs économiques et les opérateurs économiques découvrent qu'il y avait une grande partie des gens qui ne pouvaient pas voyager faute de moyens et aujourd'hui qui remplissent les avions. Et donc, à un moment donné, l'État régulateur doit agir, mais quand il est faible, les citoyens doivent pouvoir se mettre debout et pousser l'État à agir de sorte que les opérateurs économiques et l'État deviennent performants à la faveur de la communauté, à faveur des citoyens.
Voilà. Alors, la question maintenant de John Venture. C'est vrai, nous avons reçu pas mal d'experts dans cette émission, paroles aux auditeurs. Tous, unanimement, ont reconnu l'échec de ces choix, de cette option prise par le gouvernement de pouvoir céder, en tout cas, certaines concessions minières. Alors aujourd'hui, le résultat, il est vraiment, pour les uns, mitigieux, pour les autres, négatif. Bon, je crois que il y a des débats à faire autour de cette question. Mais il est temps pour nous d'ailleurs d'accueillir deux autres auditeurs qui nous ont rejoints. Amos, qui est à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes au Sud Kivu. Quelle est la situation qui prévaut actuellement avec la décision du gouverneur et qui a été des revers de main balayé par le ministre des Mines qui demande à ce qu'on puisse sursoir cette décision. Alors, comment vous réagissez?
En fait, JR, on a constaté un flou orchestré par les dirigeants congolais du sommet à la base pour ce qui est de cette exploitation illégale de minerais. Non seulement au Sud Kivu, mais presque dans toute la République. Pour ce qui est de la province du Sud Kivu, le collectif des mouvements citoyens Mkakongo était le premier à alerter avec une lettre que nous avons adressée au gouverneur depuis le 8 juin de l'année en cours par rapport à cette exploitation, parce que nous avons été alertés par la population victime de Mwenga, de Shabunda, de Kale, de Walungu. Et ce qui est grave, ces Chinois détruisent nos champs. Les choix les champs de la population sans aucune indemnité. C'était très grave. Par la suite, il y a eu beaucoup d'alertes dans ce sens et le gouverneur est parvenu à prendre une décision que nous avons eu à saluer d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est la lettre du ministère national des Mines qui a demandé au gouverneur de sursoir sa décision. Et c'est là qu'on s'est demandé qui est réellement derrière cette exploitation illicite des minerais en République démocratique du Congo. Je tiens à vous signaler hier que nous recevons beaucoup d'autres alertes, que cette exploitation s'effectue sur toutes les temps de la République, à Ituri, au Katanga, et il y a des langues qui laissent entendre qu'il y a des agents de la présidence, même des familiers du chef de l'État, qui seraient derrière cette mafia.
Encore faut-il que vous ayez des preuves. Parce qu'il ne faut pas verser dans les accusations gratuites.
Cette mafia, Et il faut voir maintenant la population qui vit dans les aires où on exploite ces minéraux.
Oui, parce que même la fameuse vidéo d'Alain Foucault. Mais Amos, même la fameuse vidéo d'Alain Foucault, je crois qu'il y a quand même des termes très, très, très réservés. Il y a quand même le respect de certaines choses, hein. Pas de faits avérés. Ce sont des analyses.
C'est ce que j'ai dit. Je me dis, c'est ce qui continue à déranger JR, c'est quoi? On se demande jusqu'à quand la RDC sera réellement un État gouverné. Parce que ça ne suffit pas que les Chinois quittent leur pays, ils viennent piller nos minéraux, au vu et aussi d'un gouvernement qui s'appellerait un gouvernement responsable. Et ce qui est choquant, c'est ces Chinois, quand ils quittent Kinshasa pour des provinces, des fois ils viennent avec des documents de recherche. Mais quand ils arrivent dans des zones concernées, ils commencent à exploiter des minéraux au vu et aussi.
Alors moi je vous pose la question, Amos, êtes-vous au courant de la fin des contrats chinois qu'on a eu à obtenir depuis le lancement de 5 chantiers, ouais, il y a plus de 10, il y a plus de 15 ans.
Davantage, c'est que ces Chinois sont souvent sécurisés par des militaires congolais. La question que tout le monde se pose, qui déploie ces militaires pour aller sécuriser ces Chinois? Ce sont les questions que les gens se posent. Moi, je pense que c'est une complicité du gouvernement en place pour piller la République. Et c'est là voilà. Que j'ai le sens de dire qu'actuellement nous sommes gouvernés par des voleurs qui crient aux voleurs.
Merci beaucoup Amos d'avoir appelé. Simon Tsiloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour Simon.
Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs à travers le monde qui nous suivent. C'est Simon Tsiloulou depuis Matadi, Congo central. Ce qui sort aujourd'hui, les gens doivent savoir, ce n'est qu'une conséquence de l'ingouvernabilité des systèmes qui ont précédé. Donc le système qui a été mis en place a été trop perméable, avait un laxisme impossible que les gens ont profité de ces faiblesses pour faire ce qu'on fait. Et aujourd'hui, cet effort est quand même, aujourd'hui, les gouvernements ou ceux qui peuvent penser gérer aujourd'hui, semblent quand même, il y a des choses qui semblent se dénoncer aujourd'hui, vous avez suivi Mbuta, Albert Yuma, Alain Foucault, tout ça. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Ce qui se fait, ce qui se remarque aujourd'hui, ce n'était pas conçu aujourd'hui. Et également, les Congolais, nous devrons avoir un sens patriotique. Parce que tout ce qui se fait là, c'est sous complice des Congolais pour les intérêts de ventre qu'ils le font. Parce que je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, nous pouvons dire, si les Blancs nous ont colonisés, parce qu'ils nous ont trouvés colonisables. Là où ils ont trouvé des peuples qui n'étaient pas colonisables, ils en ont réussi pour leur compte et passé outre. Et si les Chinois et certains Indo-Pakistanais qu'on n'a pas encore attrapés, si ils le font, parce qu'ils avaient trouvé que le système leur permettait de le faire. La perméabilité de l'administration publique prouve des faiblesses énormes quant à la protection des valeurs ou des richesses du pays ou de la nation. Il faut augmenter le sens du patriotisme au sein des Congolais. Parce que c'est chinois. Je vois, on condamne l'exploitation illégale minière. Mais ces concessions-là, ils les ont eues comment? Ici, par exemple, au Congo central, vous pouvez quitter Kinshasa jusqu'à Moanda. Toutes ces terres vierges-là que vous voyez, c'est acheté par des Indo-Pakistanais sous couverture des Congolais qui portent le nom. C'est-à-dire, on utilise un Congolais, on l'attribue cette portion de terre, et puis les Congolais, il n'est qu'un représentant, il n'est qu'un fouillage. Je vois encore autrefois, félicitations à son Excellence ministre des Droits Humains. À l'époque, il dénonçait l'appropriation illégale des concessions impossibles aux expatriés sous le nom des Congolais. Donc nous pouvons dire à ces problèmes, à cette situation qui se vit par les mines, c'est que dans tous les domaines, il faut mener des enquêtes sérieuses. Il faut que les journalistes d'investigation comme Foucault puissent s'investir dans tous les domaines. Vous allez trouver
qu'il y a des légalités énormes. Et pour ce cas ici, je pense que il faut que le système, parce que vous voyez, le politicage a dominé l'administration publique, que le secrétariat général, tous ces gens-là ne peuvent plus rien, alors que ce sont que des techniciens. C'est l'administration, c'est la gestion du pays qui...
Voilà, nous en avons déjà abordé une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Simon Tiloulou. Alors, on va prendre Sylvain. Sylvain, vous êtes à Bounia.
Bonjour.
Voilà, vous avez la parole, Sylvain, avec cette affaire qui oppose le ministre de Mines et ainsi que le gouverneur du Sud Kivu, hein, avec des correspondances, l'une, demandant qu'on puisse sursoir la décision prise par le gouverneur, interdisant donc l'exploitation illicite sur les sites aurifères dans le territoire de Mwenga. Alors, comment réagissez-vous, Sylvain?
Messieurs les journalistes, je vais d'abord commencer par vous dire trois choses. C'est plus de 20 ans que les Chinois, avec leurs entreprises et des coopératives minières qu'ils fondent sur base des intérêts criminels contre les Congo, exploitent à ciel ouvert et dans la destruction des forêts de l'écosystème congolais, sans pitié. Comme si l'État congolais n'était pas un État normal qui a sa population, qui a son territoire et qui a son pouvoir souverain. C'est pour cette raison que je veux... Deuxième chose, au niveau de l'Ituri spécialement, avant que je revienne sur la question posée, nous nous préparons à poser plainte contre la ministre des Mines et tous les services des Mines, tous les services qui interviennent dans ce secteur-là. Pourquoi? Puisque les Chinois, avec leurs entreprises, détruisent systématiquement la province de l'Ituri. Le dernier cas, vous avez vu le gouverneur militaire de Mambasa, qui a mis la main sur certains Chinois et Ougandais. Troisième chose que nous sommes en train de préparer, les Ituriens demandent des enquêtes sérieuses contre tous les services implantés en frontière. La DGDA, la DGM, l'OCC, puisqu'on ne peut pas comprendre que ces sujets chinois traversent les frontières, puisqu'ils viennent de la Chine, et se retrouvent dans l'Ituri, en tête d'exploiter l'or iturien, sans aucun
doute. Mais Sylvain, le savez-vous, nous sommes liés avec des contrats autour des 5 chantiers depuis, avec les Chinois. Est-ce que ces contrats ont été résiliés?
Nous avons demandé à l'époque où le chef de l'État nous a rencontrés en Ituri, pour la première fois quand il est venu en Ituri, en Djougou. Nous lui avons dit que l'exploitation de la guerre finance les rébellions en Ituri. Puisque vous le savez, avant même que j'ai répondu sur la question que vous m'avez posée, puisque moi, quand vous m'avez appelé pour cette émission, j'ai trouvé que c'était une occasion pour moi afin d'exprimer aux Congolais les réseaux de la criminalité qui ne cessent pas en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu.
C'est ça.
Puisque c'est devenu de la mafia. En 2006, nous allons aux élections. Monsieur Kamere, directeur de cabinet de l'ancien président Kabila. Ils ont présenté aux Congolais les 5 chantiers. Mais dans ces 5 chantiers, lorsque nous avons vu les choses se passer, nous n'avons rien vu sur le plan infrastructure. Nous avons au contraire vu des histoires qui se faisaient dans le sens de distraire l'opinion congolaise. Nous sommes allés en 2011 avec la révolution de la modernité, un mensonge grossier, mais pour lequel les mines congolaises sont en train de se vider, les forêts congolaises sont en train d'être détruites sans aucune redevance pour le compte de la population. Et donc nous disons ceci, le chef de l'État, lorsqu'il était en tournée dans les Grands Katanga, a pris une bonne décision de pouvoir rompre tous les contrats avec les Chinois et de mettre la main sur tous ces Chinois-là qui ont exploité les richesses congolaises sans que le Congo puisse en bénéficier. Les ministres des portefeuilles, les ministres des finances et des budgets, les ministres des plans, tous ces gens-là devront être trouvés un carré pour analyser les contrats sino-congolais depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et dans ce cas-là, tirer les conséquences des écarts qui existent entre ce qui devait être investi et ce qui n'a pas été fait pour que ces entreprises chinoises donnent la part qu'ils n'ont pas donnée aux Congolais. C'est vrai, on sait qu'il y avait eu des personnes malhonnêtes, magouillères, des personnes qui ont qui ont trahi le Congo à travers ces différents contrats. Aussi, ces gens devaient répondre. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Mme Janine Mabunda qui a géré la Sokimo à l'époque. Mme Janine Mabunda, pendant le temps qu'il était gestionnaire de la Sokimo, doit demain être devant la justice pour qu'elle nous dise combien les contrats miniers qu'on a signés à son époque donnés à l'Ituri, donnés à la République démocratique du Congo. Puisqu'il faut le savoir, aussi longtemps que nous ne mettons pas de l'ordre dans le secteur minier au Congo, les guerres de l'Est ne s'arrêteront jamais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à... vraiment ravi par la pertinence de votre
interview. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alors, monsieur Alkitenge, si vous le permettez, on va prendre juste un dernier auditeur. Hein. Christian, vous êtes avec nous?
Bonjour Géry, bonjour l'invité.
Quelle est votre contribution, Christian?
Oui, je crois que je vais aborder de la même manière que monsieur Sylvain, que je salue, et en disant que tous les contrats miniers en RDC sont des contrats lyonnais. Et voilà, qui ne font que paupériser le peuple congolais, mais aussi son sous-sol. Et aujourd'hui, il va sans dire que ces contrats sont en quelque sorte comme des chèques en blanc ou encore des armes que nous donnons à nos futurs et tueurs silencieux. Donc nous ne pouvons pas à l'heure actuelle comprendre le fait que dans ces contrats, il n'y a pas une contrepartie qui bénéficie à la population congolaise. Voilà pourquoi nous suggérons ce qui est que tous ces contrats soient carrément résiliés afin que nous puissions repartir sur des nouvelles bases. Donc, là, de ça, nous pensons que dans des milliers ou services de guerre, il faudrait carrément marquer une pause avec l'exploitation minière et valoriser beaucoup plus la pêche, l'agriculture et l'élevage en attendant que nous puissions remettre tout dans l'ordre, faire un toilettage sur le plan organisationnel et militaire. Donc, je crois que c'est dans ce sens que nous pouvons faire bouger les lignes. Mais sans cela, nous continuerons toujours à tourner en rond et le peuple congolais verra le sel et le pire perdant dans ces histoires.
Merci beaucoup, Christian. Alors, Alkitenge, vous avez suivi les uns les autres. Comment réagissez-vous?
Moi, je suis très, très fier et très content de découvrir mes compatriotes d'une intelligence fine incroyable. Je pars sur Christian. Il dit quelque chose de très simple. Le Congo a démissionné du rural. Le rural est investi par des bandits et des voyous, c'est le cas de le dire. Et très malheureusement, on constate ça après. Mais en fait, si vous regardez très bien, ces contrats qu'il appelle des contrats léonins, certains ne sont même pas du tout des contrats. Il faut mettre de la transparence dedans. Il faut dire qui fait quoi. Aujourd'hui, on revient sur des choses qui sont évidentes. Le conflit d'intérêts permanent des hommes politiques dans l'économie et dans l'exploitation minière, c'est totalement inacceptable. Soit vous êtes un politicien, soit vous êtes un investisseur et vous faites ce qu'il y a à faire. Les opérateurs économiques, politiques que l'on retrouve de part et d'autre affaiblissent l'État. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Moi, je propose un code de conduite. En anglais, on l'appellerait « mining with integrity ». L'intégrité dans le secteur minier. Il faut être en mesure de faire signer à tous les opérateurs l'engagement. Deuxième chose, notre ami Sylvain, il dit des choses si claires. Ça fait 20 ans que nous avons cette pollution d'exploitation inacceptable par des partenaires chinois et qui n'en sont pas des partenaires en réalité parce qu'ils ne sont pas dans la légalité. Mais cela ne se fait, on n'a pu se faire qu'avec la complicité d'opérateurs politiques congolais. Et ça, il faut le mettre en évidence et arrêter cela. C'est le temps des comptes. Et ils disent qu'ils vont faire une plainte contre les ministres. Mais bien sûr, ils peuvent faire une plainte contre l'État en général, qui n'a pas pu être en mesure de protéger le Congo et les Congolais. Et je crois simplement que c'est une bonne manière pour les citoyens de pouvoir intervenir dans le débat. Ici, nous devons décrier le lien incestueux entre les richesses créées de manière illégale et les crimes par les groupes armés. Il y a un lien clair entre les exploitations artisanales illégales et les guerres que nous avons. Et d'ailleurs, le gouverneur AI adjoint, qui a récemment montré des Chinois et des Ougandais, le démontre de manière assez claire. Ces gens ne sont pas censés être là, mais ils sont là et ils sont protégés par notre armée. En ce qui concerne l'intervention de Simon, oui, bien sûr, nous sommes en train de gérer un héritage toxique.
Oui, allô, Al Kitenge.
Oui.
Oui, si vous le permettez, en une minute, j'accorde la parole juste à Alain Bolodjoa, et puis je reviens à vous pour la conclusion. Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Alors, cette affaire polémique entre le ministre des Mines, la ministre des Mines, et puis le gouverneur du Sud Kivu. Comment réagissez-vous?
Bon, moi je crois que tout ce que nous vivons là, c'est l'absence de politique cohérente. Voyez-vous? Vous vous souviendrez qu'on a eu, dans votre émission, à faire beaucoup de débats sur ces questions. Et par moments, on est surpris de voir que c'est aujourd'hui que ceux qui ont été dans l'opposition hier continuent à en parler comme c'était des questions d'actualité. Et pourtant, nous savons qu'aujourd'hui, le plus grand problème, ce sont des incohérences en termes d'approche, en termes de politique. Nous avons tous assisté, il n'y a pas longtemps, au débat sur l'exploitation illicite. Et nous savons aussi que dans le politique public, on a autorisé l'exploitation artisanale. Et tout le monde sait que cela entretient effectivement le groupe d'armée et cela justifie dans une large mesure l'insécurité qui sévit dans la partie Est et même dans la partie australe aussi. Non. Parce que nous sentons qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau, bien qu'on en parle de moins en moins. C'est que sous-entend qu'aujourd'hui, il est temps pour nous, Congolais, de nous poser de vraies questions. Parce que nous avons vu avec votre confrère Alain Foucault, comment les Chinois exploitent, comment les Américains exploitent, et il est interdit à nos institutions d'aller faire le contrôle ou sinon aller visiter ces sites. Ce qui veut dire que l'État n'a pas le pouvoir sur ces sites.
Merci beaucoup Alain Bolodjoa de nous avoir éclairé là-dessus. Alors on revient à vous, Al Kitenge, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir que nous avons un héritage toxique. Mais seul le réveil citoyen peut nous permettre d'avancer. Et si, j'en appelle à la vigilance de l'UTCHA et des autres institutions qui sont passées à faune. Et je pense que le patriotisme des Congolais est la seule chose qui peut pousser à la fois les opérateurs économiques, mais surtout les gens qui nous dirigent. Les citoyens sont détenteurs des pouvoirs qu'ils délèguent aux politiciens. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné ou à un autre, ils pensent que les politiciens ont tous les pouvoirs. Il est donc important d'exiger la transparence. Et j'insiste aussi qu'il nous faut des journalistes capables de comprendre les enjeux et d'enquêter. C'est simplement comme ça qu'avec des citoyens informés, que nous pourrons être en mesure de pouvoir faire bouger les choses dans ce pays.
Al Kitenge, le grand stratège et analyste économique, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.